T'es en manque d'inspiration?
T'es curieuse?
À la bonne heure, tu es au bon endroit.
Vos médiathèques s'invitent à Radio B pour vous présenter leur coup de cœur du moment.
Nos chroniques sont à retrouver le 4e mercredi du mois.
À 7h30, 8h30 et 12h30.
Rediffusion le samedi à 12h30.
Tu nous as ratés?
Pense au podcast.
Bonjour à toutes et tous. On est toujours aussi ravis de vous retrouver pour une nouvelle chronique des bibliothécaires de Bourg-en-Bresse. Comme d'habitude, on a quatre coups de cœur à vous présenter ce mois-ci. Faustine nous proposera un documentaire jeunesse pour découvrir les spécialités culinaires de nos régions. Mélanie continuera avec une romance décalée, pleine d'humour et qui fait réfléchir sur les normes de genre et l'impact des représentations dans nos lectures. Fanny clôturera le bal en nous offrant une plongée dans l'histoire des sports et sportifs de notre département. Quant à moi, je commence avec une bande dessinée de Guy Delisle, connu notamment pour ses BD autobiographiques comme « Les chroniques de Jérusalem » ou « Pyongyang ». Il vient de faire paraître aux éditions Delcourt une magnifique biographie dessinée intitulée « Pour une fraction de seconde », qui retrace la vie de l'inventeur Edward Muybridge, un des précurseurs de l'image en mouvement une poignée d'années avant l'invention du cinématographe par les frères Lumière. La vie de Muybridge méritait bien sa BD tant son existence est romanesque. En 1855, il quitte son Angleterre natale et émigre aux États-Unis avec des rêves de gloire plein la tête. Après des années peu fructueuses en tant que libraire, il se passionne pour la photographie. Il est un des premiers à réaliser des images de l'Ouest sauvage, ce qui lui assurera une renommée internationale et fera de lui un des plus célèbres photographes américains de l'époque. Mais l'événement le plus décisif de sa carrière est certainement sa rencontre avec le sénateur Leland Stanford, un riche industriel passionné d'équitation et qui a dans la vie une lubie, démontrer que les sabots du cheval quittent bien le sol quand il est au galop, chose, vous en conviendrez, impossible à voir à l'œil nu. Cette préoccupation qui semble un peu farfelue taraude pourtant les milieux artistiques et scientifiques de l'époque. Les peintres équestres qui voulaient réaliser les toiles les plus réalistes possibles et autres médecins qui cherchaient à comprendre la locomotion animale pour faire progresser la science. Stanford demande donc à Muybridge d'utiliser la photo pour résoudre cette énigme. Un défi de taille car les techniques photographiques de l'époque, beaucoup trop lentes, ne permettent pas de fixer clairement la course d'un cheval au galop. En profitant des avancées technologiques et de son travail sur un système d'obturation plus rapide, Muybridge parviendra finalement à saisir le mouvement d'un cheval en pleine course en utilisant 12 appareils placés à égale distance les uns des autres, chacun de ces appareils étant relié à un déclencheur à distance que le cheval active à l'aide de ficelles tendues sur son passage. Muybridge a réalisé un véritable exploit. Au-delà d'avoir prouvé que le cheval quitte bel et bien le sol quand il est au galop, il a surtout créé un procédé de décomposition du mouvement par l'image, technique qui sera un peu plus tard à l'origine de l'invention du cinématographe par les frères Lumière. La simplicité du trait de Lille se prête très bien à l'exercice biographique, dont l'intérêt est avant tout documentaire. On sent que l'auteur souhaite s'effacer complètement derrière son sujet, dans un souci d'objectivité propre au biographe. Au point de le sentir presque écrasé sous le poids historique de son personnage, qu'il manque, je trouve, à incarner dans sa dimension tragique, aux prises avec ses dilemmes moraux. Car Muybridge, l'inventeur, est aussi, au passage, le meurtrier de l'amant de sa femme et le père d'un enfant illégitime qu'il confiera très vite à une institution religieuse. Car sa femme mourra peu de temps après le meurtre de l'amant, d'une fièvre typhoïde contractée après avoir intenté plusieurs procédures de divorce qu'elle n'obtiendra jamais. Un personnage aux multiples facettes, donc, à découvrir urgemment au rayon BD de la médiathèque Césaire. Je passe désormais la parole à Faustine.
Bonjour à toutes et tous. Et si on partait en voyage? Pas besoin de valise ni de billet de train, juste d'un bon livre. Aujourd'hui, je vous propose une promenade à travers la France, un voyage à la fois culturel et gourmand, avec « Une promenade gourmande en France » de Amélie Lafetteur, un documentaire édité chez Larousse Jeunesse. Ce livre propose de partir à la découverte des régions qui composent le territoire français, mais également son terroir, avec un aperçu des spécialités culinaires locales. Ce documentaire est une véritable invitation à la découverte des régions françaises sous toutes leurs facettes. Leurs paysages emblématiques, leurs traditions et évidemment leurs spécialités culinaires. Car en France, chaque région a son histoire et ses recettes. Vous aimez le fromage fondu et les sommets? Direction l'Auvergne. Vous préférez le soleil et la douceur sucrée des calissons? Cap sur la Provence. Et si je vous dis gastronomie du Sud-Ouest, vous sentez déjà l'odeur du confit de canard et du cassoulet? au-delà des spécialités bien connues de tous, on en découvre d'autres, bien moins connues, mais tout aussi appétissantes. Connaissez-vous par exemple la croustade aux pommes de Toulouse ou la turgoule de Normandie? Mais ce livre ne se limite pas aux saveurs. Il nous plonge aussi dans les arts et les spectacles populaires, comme Guignol à Lyon ou le char à voile sur les plages du Nord. Autant de traditions qui composent un patrimoine riche et vivant et qui font battre le cœur des régions françaises. À travers les illustrations colorées et attrayantes d'Amélie Laffetteur, qui recèlent de détails et des explications accessibles, ce documentaire jeunesse s'adresse en réalité à tous et est une belle porte d'entrée pour tous ceux qui veulent mieux connaître la France, que l'on soit passionné d'histoire, de culture ou simplement gourmand. Un livre à feuilleter seul ou en famille, pour préparer un futur voyage, de futures recettes ou simplement rêver devant les spécialités culinaires de notre territoire. À la fin du livre, il est même possible de retrouver quelques recettes typiques et faciles à réaliser pour les enfants. Alors, si vous avez envie d'éveiller vos papilles tout en explorant les trésors de nos régions, une promenade gourmande en France vous attend à la médiathèque Camus, à consommer sans modération. Je passe maintenant la parole à Mélanie qui va vous parler d'un roman.
Merci Faustine, bonjour à tous. Je vous présente un roman qui s'appelle Cucu, un titre facile à retenir, écrit par Camille Emmanuel aux éditions Verso, qui n'est pas si cucu que ça. D'accord, on est sur de la romance avec les codes du genre, mais de la romance engagée s'il vous plaît. Engagée parce que son autrice, Camille Emmanuel, est féministe et donc le personnage principal qu'elle crée, Marie, l'est tout autant. Pour résumer l'histoire, Marie écrit de la new romance, un genre très en vogue auprès des adolescentes dès 12-13 ans. Et son éditrice, un jour, lui demande d'écrire de la dark romance. Donc un cran au-dessus qui romantise les relations violentes. Et pour Marie, ça a une mauvaise influence auprès de ses jeunes lectrices. Elle voit rouge et elle décide de tuer le bel Apollon de son manuscrit. Mais elle n'avait pas prévu que le matin au réveil, qui est-ce qu'elle verrait débarquer sur son canapé? Je vous donne dans le mille, le milliardaire tout droit sorti de ses fantasmes et de son roman. Sauf que dans la vie réelle, il n'a pas un sou en poche et ne sait même pas faire cuire des pâtes. Bref, il est totalement inadapté, mais quand même très sexy. Je vous lis un petit passage. En une seconde, je vis trouble. Mon rythme cardiaque s'accéléra et je respirais mal. Tous les symptômes du syndrome de Stendhal. Ce choc émotionnel que vivent certaines personnes face à une œuvre d'art, devant un excès de beauté. Je l'avais étudié à la fac et j'avais trouvé ça dingue. Sauf que ce n'était pas un chef-d'œuvre qui était debout derrière mon petit bureau, mais un être de chair et de sang. Sa beauté était tellement subjugante qu'elle en était indécente. Depuis ses cheveux humides tombant sur son visage, aux pommettes saillantes, jusqu'à son torse lisse et hâlé, où chaque muscle était parfaitement formé, tout, absolument tout, était beau et érotique. Sa bouche, merveilleusement dessinée, appelait les baisers. Le tatouage de cœur sacré, ancré sur la peau ferme de ses pectoraux, réclamait des caresses. Ses bras si imposants existaient pour soulever un autre corps et le renverser sur le canapé. Je devinais sous la serviette de bain un sexe au repos et pourtant prêt à se dresser et « Marie, j'ai quelque chose à vous demander. » Il me fit sursauter. J'avais été complètement hypnotisée. Qu'est-ce qui me prenait? Ok, il était méca bien gaulé et ultra sexy. Jamais de ma vie, et encore moins dans mon appartement, je n'avais vu torse nu un homme pareil. Mais je devais me calmer. Depuis quand ce genre de gars me faisait-il de l'effet? J'étais la première à me foutre de la gueule des mecs avec deux de QI qui passaient leur temps à soulever de la fonte et à se regarder dans le miroir. Mais là, c'était autre chose. Je devais l'admettre. C'était ma faute, c'est ainsi que je l'avais décrit. Un dieu vivant. L'homme le plus sexy du monde. J'y avais mis tous mes fantasmes. Oh putain, il contournait mon bureau et s'avançait vers moi. Je me levais de ma chaise, chancelante, tentant de masquer mon trouble. Nous étions extrêmement proches. Est-ce qu'il allait m'embrasser ? Cette bouche, bon sang, et ses yeux verts émeraude qui me dévisageaient. Il faisait chaud, non ? Tout à coup. Le chat Pichoun. Je devais penser à la tête de Pichoun pour redescendre. C'était un vrai tue-l'amour. Pour conclure, c'est un roman qui plaira aux fans de romance, tout autant qu'aux autres lecteurs et lectrices. Vous retrouvez un triangle amoureux, un trope enemy to lovers, tout en ayant un roman drôle, décalé, qui questionne sur les tendances littéraires actuelles et sur le féminisme. Bonne lecture, je laisse la parole au collègue qui continuera.
Merci Mélanie. Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, pour le coup de cœur Être Indinois, je vous présente l'ouvrage « Ça c'est du sport, 100 ans de photographie sportive dans l'Ain ». Cet ouvrage est édité par les Amis des Archives départementales de l'Ain et a été concocté par le service des Archives départementales. Dans cet ouvrage, par l'intermédiaire de la photographie, est mis en avant le sport et les exploits sportifs, mais aussi des instants clés de l'histoire locale. Et c'est notamment pour cela que j'ai choisi de vous présenter cet ouvrage aujourd'hui. Car si vous ne le savez pas encore, la médiathèque Vaillant conserve un fonds d'histoire locale. Dans ce fonds, vous trouverez des ouvrages récents, des plus anciens, sur différents thèmes, sujets, mais tous en lien avec le département de l'Ain, son histoire, la vie quotidienne des Indinois. Il s'agit aussi bien de romans que de documentaires ou encore des revues. Ces documents sont empruntables pour la plupart et aussi conservés dans le but de devenir la mémoire de l'histoire locale, notamment pour les générations futures. Bref, revenons à cet ouvrage. Pour chaque photo sélectionnée, une photo présentée par page, une phrase d'accroche est indiquée. Ça glisse, ça grimpe, ça attaque, ainsi qu'une légende avec titre, lieu, s'il est connu, une date, si elle est connue aussi, et bien sûr la cote et la provenance de la photographie. Toutes ces photos sont conservées aux archives départementales. Elles proviennent soit d'associations, soit de collections privées, ou bien du fonds iconographique du journal La Voix de l'Ain. Si j'ai choisi cet ouvrage, c'est aussi parce qu'il mêle sport et patrimoine, deux notions sans lien au départ. Et pourtant, là, grâce à cet ouvrage et ses nombreuses photographies, on est plongé dans l'histoire de notre département. Des instants de vie sont ainsi immortalisés à jamais, comme cette photo représentant une famille en randonnée au-dessus de Nantua vers 1942, tout souriant, motivé dans cette ascension alors que la guerre sévit quelques centaines de kilomètres plus loin. C'est émouvant, touchant, passionnant. On a vraiment envie d'en savoir plus sur ces personnes, sur leur quotidien et leurs exploits. Pour finir, je vous indique quelques photos que j'ai particulièrement aimées, notamment la première de cet ouvrage qui est des hommes formant une pyramide humaine, c'est impressionnant, qui se passe lors de la fête de l'avenir au Cerdon en 1913. Un peu plus loin, page 29, on retrouve un skieur dans le Haut-Jura, en débardeur, short et chaussettes hautes, amusant et surprenant. Mais son regard en dit long sur sa concentration et sa détermination. Et pages 62 et 63, vous pourrez découvrir des photos de joueurs de rugby en pleine action lors d'un match, notamment celle de droite, qui est aussi amusante puisqu'elle se passe dans le brouillard, typiquement bressant. Je vous invite bien sûr à le feuilleter pour découvrir plein d'autres photos, notamment aussi cet essai d'un avion à Toisset au tout début du XXe siècle. Impressionnant. Vous pourrez donc retrouver cet ouvrage à la médiathèque Vaillant, à l'espace patrimoine. Je vous rappelle son titre, Ça c'est du sport, 100 ans de photographie sportive dans l'Ain. Merci.
Merci, au revoir.
T'es en manque d'inspiration ?
T'es curieuse ?
À la bonne heure, tu es au bon endroit.
Vos médiathèques s'invitent à Radio B pour vous présenter leur coup de cœur du moment.
Nos chroniques sont à retrouver le quatrième mercredi du mois.
À 7h30, 8h30 et 12h30.
Rediffusion le samedi à 12h30.
Tu nous as ratés ?
Pense au podcast.